Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes aujourd'hui présents pour une nouvelle émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, autour de la table, nous pouvons retrouver notre fidèle passeuse de mémoire, Karima Berich.
Bonjour.
Bonjour Karima. Pierre Lézot.
Bonjour fidèles auditeurs.
Saïd Boukenouche.
Et bonjour aussi.
Et monsieur Daniel Baume.
Bonjour.
À la technique, nous avons Sidi Diallo de Radio Galère. Nous regrettons aujourd'hui l'absence. Nous regrettons l'absence de Farid Adrar, qui habituellement est en mode coproduction. Mais bon, nul étant irremplaçable, nous allons poursuivre cette émission dont le thème est 40 ans de la marche. La marche poursuit un long chemin vers la dignité. Donc, certains d'entre vous doivent se rappeler que le 27 avril, nous avions déjà fait une première émission sur le thème de la marche. Et c'était 40 ans après, la marche continue. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit point d'étape face à l'imminence du départ de la marche 83, qui, on le rappelle, en 83 était partie du quartier de la Cayolle un 15 octobre. Mais avant de poursuivre avec vous sur la programmation de la marche, Saïd, est-ce que tu peux nous parler du collectif Mémoire en Marche, s'il te plaît ?
Alors, le collectif Mémoire en Marche, c'est un collectif marseillais qui s'est constitué pour les 30 ans de la marche et qui est essentiellement composé de personnes qui ont plus ou moins participé à l'organisation locale de la marche, à certaines étapes de la marche. Et donc, cette année, on était ceux qui ont lancé l'affaire ici à Marseille pour préparer les 40 ans, pas seulement à Marseille, mais au niveau national.
Alors, comment est-ce que ça vous a semblé nécessaire de créer un collectif ?
Ben, pour le collectif lui-même, si on repart aux 30 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans, l'idée c'était qu'on voulait travailler sur la mémoire, c'est-à-dire que bon, au moment de la marche, on avait entre 20 et 30 ans, et là, je vous laisse calculer 30 ans après ce que ça fait. Et donc, on était dans un groupe informel, un collectif, et donc on a commencé à travailler sur la mémoire, notamment en organisant des rencontres-débats au cinéma de l'Alhambra, des rencontres-débats qui ont eu beaucoup de succès, n'est-ce pas, monsieur Pierrot ?
Pierre Debout ?
Oui, nous ne pouvons pas occulter que ce groupe, de ce collectif Mémoire en Marche, le noyau dur, j'allais dire, et le noyau historique de ce collectif provient de Radio Gazelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont milité au sein de Radio Gazelle, la radio multiculturelle de Marseille. Je sais que ça fait peur au ministre de l'Intérieur et à d'autres que l'on puisse employer ce terme multiculturel, mais c'est un terme qui nous semble tout à fait adéquat et 40 ans après, que nous continuons à reprendre à notre compte. Cette radio a été créée avant même l'émergence des radios libres, lorsqu'elles ont été légalisées par le président Mitterrand en 1981. C'est-à-dire que les camarades qui ont créé cette radio, il y en a un à ma droite, Saïd, ceux qui ont créé cette radio émettait déjà avant même que les ondes ne soient libérées. Et il faut dire qu'on avait un grand exemple de radio pirate, puisque le président Mitterrand lui-même avait créé une radio libre à l'époque, etc. Alors cette radio avait comme originalité d'accueillir tous ceux qui voulaient, c'est comme l'auberge espagnole, que ceux qui voulaient bien amener leur expérience, leur savoir, et qui avait quelque chose à dire. Radio communautaire de Marseille, déco-communautaire, tu vois, je reprends des mots qu'il ne faut pas. Déco-communautés de Marseille, rassemblait à peu près quoi ? Une trentaine de communautés. Je ne pourrais pas les citer tous. Chacun venant dire de son point de vue, raconter l'histoire, la culture, etc., de son pays d'origine, mais on se retrouvait notamment dans un groupe politique au sens noble du terme pour porter toutes les actions, les difficultés que rencontraient les communautés dans les quartiers de Marseille. Donc, nous sommes toujours restés actifs, toujours restés vivants, ce groupe de Radio Gazelle, bien, comme nous avons été à la logistique de la marche, à la, j'allais presque dire à la philosophie de cette marche de 83, eh bien ce groupe-là n'a cessé que de rappeler pour la mémoire, pour la transmission, ce qu'a été la marche de 83 et quelle a été l'origine de cette marche et pourquoi cette marche a pris corps. Cette marche a pris corps au Maiguette, n'est-ce pas, où bien entendu nous étions dans une période de très grande violence raciste, de bavures policières, c'était le mot qu'on employait à l'époque, hein, bavures policières, etc. Je reprends le terme de l'époque, nous pourrons en discuter, et lors des 40 ans, nous aurons l'occasion de parler, de voir comment les choses ont été transformées, et de bavures policières, nous parlons aujourd'hui de violences systémiques policières. Donc, Saïd, tu peux nous raconter un peu l'origine de cette marche à partir des Maiguettes.
Merci.
Si tu me permets, parce que tu aimes bien quand je recadre un petit peu les choses, Saïd.
Oui, madame.
On peut en revenir, en terminer sur le chapitre du collectif, qui le compose à l'heure actuelle. Jean-Marc aimerait savoir quel est le statut.
Je pense que ce n'est pas beaucoup d'intérêt. C'est une question de Jean-Marc que tu as appris.
Non, mais combien de membres, grosso modo? Est-ce que c'est des collectifs, des associations, des individus? Non, mais
justement, l'intérêt d'un collectif, c'est que c'est mouvant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, vice-président, etc. etc.
Non,
on peut être aussi bien 20 que 4. Ça dépend des moments. Ça dépend. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on n'a pas l'idée, c'est que donc on n'est pas une association qui demande des subventions, qui a des activités, qui a un président, qui a un rapport d'activité à faire. Donc on faisait les choses selon les moyens qu'on avait, selon le temps qu'on avait, etc. Et donc c'est pour ça que je dis les questions juridiques n'ont pas de réelle importance.
Le message est entendu.
Et donc, je parle des Maiguettes.
Oui, vas-y, parle-nous des Maiguettes.
Donc, dans les années 80, ceux qui étaient là, qui étaient vieux, qui sont vieux maintenant, se rappellent qu'il y avait ce qu'on appelait les rodéos des Maiguettes, c'est-à-dire, les Maiguettes, c'est dans la banlieue de Lyon, des grands ensembles, un peu comme ici, où on a fait des grands ensembles où les gens habitaient dans des HLM, sauf qu'on a oublié de penser que grand ensemble, c'est presque une ville, et une ville, il faut qu'elle ait un certain nombre d'infrastructures, alors que dans ces grandes banlieues, il n'y avait rien, et donc en plus de ce que disait Pierrot sur la question des discriminations, de la violence policière, il y a aussi la question du mal-vivre, c'est-à-dire, et du coup il y a eu un certain nombre de rodéos, enfin des problèmes avec la police. La police à l'époque aussi, c'était pas la police de proximité, c'est-à-dire des policiers qui arrivaient dans les cités pour faire un peu les shérifs. Et à un moment donné, donc une association qui s'appelle SOS Avenir Maiguette, dont le président s'appelle Toumi Jaïja, essayait de faire une sorte de tampon entre la police et les jeunes. Et une fois, donc, les policiers sont arrivés avec des chiens, et donc comme le chien allait sur un jeune, et donc Toumi Jaïja, le président de SOS Samir Maiguette, s'est interposé donc tranquillement au niveau des chiens, et le policier lui a tiré dessus, une balle dans le ventre, donc il s'est retrouvé à l'hôpital. Et c'est là que donc ses amis sont venus le voir, etc. Et un personnage important, c'est-à-dire Christian Delorme, un curé, et qui travaillait aussi à la CIMAD, donc un centre œcuménique d'aide aux immigrés, a commencé à discuter avec lui. Et donc, comme le curé des Maiguettes était dans le trip de la non-violence, Gandhi, etc., Martin Luther King, il y a eu une sorte de sensibilisation. Et donc, ils se sont dit, tiens, il faudrait faire une marche pacifique, comme ça a été fait donc aux États-Unis quelques décennies avant. Et donc l'idée a commencé à germer, et un peu partout en France, des associations ont commencé à discuter. Donc nous à Marseille, donc il y avait Radio Gazelle, il y avait beaucoup d'autres associations, hein, évidemment c'est pas seulement nous, hein, beaucoup d'autres associations ont commencé à discuter. Et donc il y a eu une réunion qui a eu lieu à la CIMAD de Marseille, 26 boulevard des Dames. Coïncidence, c'est aussi là où se trouvait Radio Gazelle, dans le même immeuble. Donc il y a eu la réunion, on a discuté. Bon, c'était un peu étrange que les gens arrivent avec un projet en disant on va traverser la France en marchant, en faisant à peu près 20-25 km par jour, etc., etc. Et cette idée, bizarrement, les gens se sont dit bah oui, ça peut marcher. Donc, évidemment, aucune certitude, ça peut marcher. Et donc, à partir du moment où l'idée a été acceptée, on s'est posé la question de comment on démarrait. Donc, à Marseille, ce qui aurait été logique, c'était de démarrer dans les quartiers nord. Sauf que, quelques mois avant, un jeune quelques jours, ça c'était en mars, non ?
Ah oui, d'accord.
Quelques semaines avant, il y a eu un attentat à la bombe dans la cité de la Cayolle, dans laquelle se vivent des Maghrébins et des Gitans, et un jeune Gitan a été tué, et son frère blessé. Et donc, symboliquement, on a été autour de la table. Assez rapidement, on s'est mis d'accord pour que la marche démarre de la Cayolle et traverse la ville et vienne jusque dans le Grand Saint-Barthélemy.
Je te remercie, Saïd. Nous allons faire une brève pause musicale avec un morceau de Monsieur Daniel Baum, ici présent, la chanson des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
À l'endroit où se trouvent.
Chez cochons, fermez forêt.
Adieu, vaches et cochons, fermez forêt.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Si tu veux te construire une belle villa.
Si tu veux te construire une belle villa.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi. C'est un quartier mal fréquenté.
On dit que c'est un quartier mal fréquenté.
C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
Les immigrés travaillent sur des chantiers.
Les immigrés travaillent sur des chantiers.
Et construisent des maisons pour les Français.
Et construisent des maisons pour les Français.
Les flics nous font
Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Galère pour cette émission spéciale 40 ans de la marche avec nos invités Saïd Boukounouch, Daniel Baum et Pierre Lézeau. À mes côtés, Karima Berich, qui va nous dire quelques mots.
Oui, effectivement, donc, parce que là, nous avons trois invités prestigieux, et notamment sur la question de l'histoire de la marche et de la lutte contre le racisme, etc. Donc moi, je voulais effectivement poser un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre, puisque je devais parler des ratonnades et de l'attentat du consulat algérien, mais ça, je vais demander à nos deux collègues ici présents d'en dire beaucoup plus. Je pense que d'abord, il faut parler de cette fameuse et singulière histoire de l'Algérie et de la France. En 1930, la France décide de coloniser le territoire algérien, et cette colonisation va se faire avec un terme qu'on peut interroger aujourd'hui, qui est le terme de la pacification, qui va se faire sur plus d'une dizaine d'années et qui est extrêmement meurtrière, puisque les chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est que la population d'origine, enfin la population de l'époque, pardon, c'est plus d'un tiers qui sera massacré lors de cette pacification. Donc on voit déjà qu'il y a une histoire assez sanglante de le départ de cette colonisation, et qui va trouver son apothéose, en tout cas, pendant la guerre de libération, qui va être déclenchée par le Front de Libération Nationale Algérien, le 1er novembre 1954, qui va durer 7 ans. Et là aussi, où le peuple algérien va payer un lourd tribut, plus d'un million de morts pour acquérir une indépendance tout à fait légitime, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y a tout un mouvement à l'époque où les pays colonisés s'inscrivent dans une dynamique d'indépendance. Et donc il y a ce passif, une colonie de peuplement, plus d'un million de pieds noirs, pardon, installés pour certains depuis plusieurs générations. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de ces deux pays, mais une histoire qui va se poursuivre après l'indépendance, puisque déjà avant l'indépendance, mais après, beaucoup de travailleurs algériens viendront en France pour occuper pour la plupart des postes de manœuvre dans des grands secteurs d'activité, que sont le BTP, la mine ou l'automobile. Et le ressentiment de certains pieds noirs ou de gens qui vont jouer sur la fibre d'une certaine population de pieds noirs est encore présent, notamment dans le sud, puisqu'on sait que beaucoup de rapatriés se sont installés dans le sud de la France. Et en 1973, je vais juste introduire l'histoire, mais après je vais laisser les collègues en parler beaucoup plus. Il y a un Algérien, un déséquilibre algérien, qui va assassiner un chauffeur de bus, ce qui est dramatique en soi, mais ce qui est encore plus dramatique de mon point de vue, c'est comment une certaine presse et des politiques vont instrumentaliser ce fait dramatique, et qui va se traduire après par ce qu'on appelle aujourd'hui les ratonnades de 73, avec son point culminant que va être l'attentat terroriste, enfin l'attentat contre le consulat algérien. Mais je pense que Pierre et Saïd diront beaucoup plus de choses, puisque semble-t-il ça fait aussi partie du programme des 40 ans de la marche, parce que la marche aussi s'inscrit dans cette filiation d'une histoire assez, assez singulière, mais je dirais dramatique et sanglante.
Oui, avant de, je voudrais rebondir sur l'assassinat de ce chauffeur de bus par ce déséquilibré. Pour moi, c'est presque une histoire familiale, puisque mon père était à l'époque, travaillait à l'époque dans le bus, et nous avons été confrontés à ce drame dès le début, etc. Et tu as bien fait de parler de ce déchaînement de violence. De toute façon, dans une certaine presse, dans le Méridional de Domenech, il faut le citer. Et après, on pourrait faire carrément une histoire des éditoriaux de Domenech depuis cet événement jusqu'à ce qu'on appelait les ratonnades, les meurtres racistes, etc. Donc il y a eu ce fait-là, et puis 1973, c'est le consulat algérien, l'attentat au consulat.
D'abord un mot sur le... Ça peut sembler bizarre que Karima ait parlé de la guerre d'Algérie. Alors qu'on parle de la marche, on parle de la France, et justement, il faut dire qu'il y a un lien. Donc c'est pas quelque certains, on peut détourner les choses en appelant la marche pour l'égalité contre le racisme marche des beurs, Alors que pas du tout. Il se trouve que juste, si on parle de la guerre d'Algérie, c'est la question de la colonisation. Et parce que la colonisation s'est terminée formellement avec l'indépendance des pays, mais l'esprit colonial, ça a continué. Et c'est pour ça qu'à Marseille, donc, non seulement les Algériens, mais aussi d'autres origines, les Maghrébins entre autres, mais aussi Africains, etc., ont subi ce traitement colonial. Donc il y a vraiment un lien, c'est pas quelque chose qui est rapporté. Alors sur la question des ratonnades, bon, 73, c'est donc une période où qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire que il y avait la peur, c'est-à-dire que les gens avaient peur de sortir de chez eux. Pourquoi ? Ben parce qu'il y avait des groupes d'extrême droite, Ordre Nouveau, groupe Charles Martel. Bon, comme ce sont des groupes clandestins, on ne sait pas exactement lequel a fait quoi, mais donc l'attentat à la Cayolle, c'est un groupe d'extrême droite. L'attentat au consulat d'Algérie, c'est aussi un groupe d'extrême droite. Et il faut souligner une chose importante, c'est que les coupables n'ont jamais été punis. Donc c'est ça qui est énorme. Et donc, après donc ce dont on parlait, Karima et Pierre, le Tramino qui a été tué, donc il y a eu cet éditorial du journal d'extrême droite qui a fait que les gens se sont sentis autorisés à passer à l'acte. Et parmi les gens, il y a donc des gens en général, mais il y a aussi des gens qui avaient un lien avec la guerre d'Algérie, donc des anciens pieds noirs qui étaient policiers là-bas ou qui sont devenus policiers ici, et qui étaient parmi les gens qui étaient dans les assassinats.
Oui, ces éditoriaux dont on parle, c'était carrément un appel au meurtre.
Moi, je voulais juste, parce que tu as parlé de ta famille, tu as dit qu'effectivement, pendant cette période 73, il y avait la peur. Dans les familles, la peur était exprimée. Et moi, j'ai un souvenir encore très prégnant. J'avais 12 ans, donc en 1973. On est une fratrie de 9 enfants, un garçon qui était l'aîné et 8 filles. Mon frère travaillait, à l'époque, c'était donc l'aîné, il était salarié. Et mon père lui a interdit d'aller travailler en lui disant, s'il y en a un qui doit passer, c'est moi et ça ne sera pas toi. Donc c'est pour vous dire comment on était habité par cette peur de dire s'il y en a un qui doit être assassiné, je préfère que ce soit moi plutôt que toi, mon fils. C'est des choses qui vous marquent et qui vous construisent aussi comme sujet politique plus tard.
Et la place des femmes dans cette fameuse marche de 83, quelle était-elle ?
C'est pas trop rapide. D'abord, après la mort de la Jolonès, donc c'est celui dont on a retenu le nom, donc c'est un jeune de la Calade qui a été tué devant chez lui. Donc absolument pour rien, juste parce qu'il avait une tête d'arabe. Il y a eu pour accompagner le cercueil, il fallait traverser la ville, aller à la Joliette pour amener son corps. Et croyez-le ou pas, mais pendant que la procession passait, il y avait des gens qui insultaient les gens. Les gens qui faisaient la procession étaient insultés par des gens de leurs fenêtres dans des quartiers du centre-ville. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui marque. C'est-à-dire que c'est grave. C'est-à-dire que c'était pas déjà organisé et qui, spontanément, on passe devant chez eux et en gros, justifie la mort de ce jeune. C'est ça qui était grave. Il y a un autre élément, puisqu'on parle un peu d'histoire, c'est l'histoire du mouvement des travailleurs arabes. Ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Pour une fois, en tant qu'immigration, il y a un mouvement qui s'est créé en luttant, en gros, deux choses importantes, la Palestine et la question du droit des immigrés. Et donc c'est pourquoi ce mouvement est connu. D'abord parce qu'il a été national et c'était rare de trouver un mouvement national de manière autonome. Mais ce qui est en plus fort, c'est qu'ils ont réussi à faire une grève qui a touché beaucoup de monde, notamment ici dans notre région, alors que même les syndicats se disaient, mais c'est une folie, vous n'avez pas lancé une grève, etc. Ils ont fait une grève qui a très bien marché.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il me semble que dans le slogan de la marche, c'était la marche contre le racisme et pour l'égalité, et notamment en creux, l'égalité entre travailleurs français et travailleurs immigrés. Et c'était bien des slogans du MTA qui rappelait qu'effectivement, travail égal, le salaire ne l'était pas, les conditions de travail, etc. Donc c'est vraiment important de dire qu'il y a toujours une filiation. Comme disait Saïd Bouamama, le sociologue, il n'y a pas de génération spontanée. Ces générations s'inscrivent dans un contexte de lutte, d'émancipation et d'égalité.
Et donc
les femmes, l'émancipation des femmes et leur importance dans ce mouvement.
Ouais. Donc Karima, elle a dit, un homme va parler des femmes. Donc, et si je ne parle pas, c'est mieux. Vas-y alors.
Non, moi ce que je voulais dire sur, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont participé à la marche. Moi, ce que je vous dis, cette émancipation de ces jeunes filles, de mon point de vue, elle s'est faite par l'action politique, par la mobilisation, par les revendications qu'elles portaient, mais qu'elles portaient à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour l'ensemble, à la fois de leurs frères et sœurs, mais aussi de rappeler à ce pays qui est quand même construit autour d'un triptyque qui s'appelle égalité, liberté et fraternité, que la liberté est parfois malmenée, l'égalité est parfois malmenée. Donc moi, de mon point de vue, s'il y a eu émancipation de ces jeunes filles, elles s'inscrivent dans une dynamique politique de revendication. Voilà.
Je peux parler quand même, alors ça va. Non, ce qui est intéressant, donc moi je parle du cadre de la marche, c'est que dans un premier temps, il y avait très peu de filles qui étaient dans ce qu'on appelle les marcheurs permanents. Il y avait très peu de filles parce que bon, la réalité c'est ça, c'est que à cette époque-là, nos parents arrivaient du pays d'origine avec une sorte de vie traditionnelle, des mœurs traditionnelles, et donc c'est vrai que les jeunes filles avaient du mal à sortir. Et c'est vrai que c'est pas la marche qui a fait ça, mais un des éléments qui ont fait que, au fur et à mesure que la marche avançait, on voyait de plus en plus de filles qui, justement, je parle pas que de Marseille, un peu partout, des filles qui ont commencé à se sentir légitimes à sortir elles-mêmes, alors que, évidemment, avant, elles avaient un peu de mal parce qu'il y avait le patriarcat, il ne faut pas le nier, oui, etc. Ouais. Mais grâce à ce qui se passait là, un mouvement, des choses qui bougeaient, et pour une fois, on parlait un peu de certaines populations, de leur famille, etc. Ça a changé les choses.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu parlais que la MTA s'est construit autour de deux axes, la question palestinienne et la question de l'égalité du travail entre travailleurs immigrés et français. Moi, j'appartiens à cette génération dont le père nous a extrêmement sensibilisés, d'abord à la guerre d'indépendance, et puis surtout à la question palestinienne. Et je trouve que, en tout cas moi je le dis toujours, parce qu'on a toujours l'impression, quand on parle des filles maghrébines ou des beurettes, ce terme que je déteste, on a toujours l'impression qu'elles sont émancipées selon le modèle dominant blanc, alors que déjà dans nos familles, nos pères, du fait d'avoir participé à la guerre de libération, portaient un objet politique et nous ont inscrits dans cet objet politique qui était un objet politique extrêmement émancipateur. Et moi, si je me suis inscrite après dans différents mouvements ou même dans le secteur associatif, ce qui nous caractérise aujourd'hui autour de cette table, c'est quand même la question de l'engagement. Et cet engagement, elle s'est nourrie, en tout cas de mon point de vue, aussi de cette relation que j'ai eue privilégiée avec mon père, qui m'a ouvert au champ politique, alors que c'est un illettré, mais du fait d'avoir participé durant cette époque à une guerre de libération, ben, de fait il a été en plein dans, comment je pourrais appeler ça, il a été confronté à ce qu'est la question politique d'un homme colonisé, et il a très bien compris que même ici, en étant en France, c'était plus un colonisé, mais c'était un travailleur exploité. Et il nous a extrêmement sensibilisés à ces questions. Donc moi, la question de l'émancipation, je ne la rattache pas au modèle de l'émancipation des femmes au regard d'un modèle dominant blanc, mais plutôt dans cette histoire qui nous est propre, qui est celle de la colonisation et de la pré-colonisation, tout aussi à interroger que la colonisation.
Tu vois, Saïd, il était intéressant d'avoir le point de vue d'une femme sur cette question. Quelle est la place, quelle était la place de la femme à l'époque ? Je voulais dire qu'à l'époque, la question, de notre point de vue, ne s'est jamais posée. Et j'allais presque dire que les femmes, nous étions plutôt à la remorque, peut-être par rapport à ce que vient de dire Karima, mais nous étions plutôt à la remorque. Elles n'ont pas eu besoin de personne pour aller sur l'émancipation, etc. Radio Gazelle, mais je pense que c'était les associations venaient de se créer, des associations où le président pouvait être étranger, etc., venait à peine de se créer, etc. À Radio Gazelle, nous rappelons, et nous la saluons ici, nous rappelons Kera Etabas, qui fut la première présidente de Radio Gazelle. Donc j'allais presque dire, c'est nous qui étions à la remorque, peut-être que les femmes allaient beaucoup plus loin dans leurs demandes, dans leurs exigences que nous-mêmes.
Merci Pierrot. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de la marche il y a 40 ans ?
On peut
toujours tirer.
Est-ce que vous en avez un tout prêt ?
Oui, en général, c'est compliqué, on dit un bilan. Mais en fait, je vais faire un bilan, mais juste de l'après-marche, juste après. Quoi.
Allez.
Ce qui s'est passé, c'est que donc, la marche a commencé à Marseille avec peut-être quelques centaines de personnes. Elle s'est terminée à Paris avec plus de 100 000 personnes qui étaient... et parmi ces 100 000 personnes, évidemment, des personnes qui venaient d'un peu partout. Et ici, dans le Grand Saint-Barthélemy, il y a eu des cars qui sont partis d'ici. Et donc ça a été quelque chose d'énorme. Quand les marcheurs... qu'on appelle permanents, sont arrivés à Paris, il y a eu une négociation pour être reçu par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Tout à l'heure, on parlait de Palestine, et il faut remarquer que le chef de cabinet de François Mitterrand dit, bon, les kéfiers interdits. Kéfiers, donc, c'est le symbole de la résistance palestinienne. Donc les marcheurs les ont cachés pour pouvoir rentrer. Et ensuite... La grande déclaration qu'a faite le président Mitterrand, c'est de dire la carte de 10 ans pour les immigrés est généralisée. Je dis généralisée parce que pour les Algériens, elle existait déjà. Et donc c'était quelque chose d'intéressant pour la population générale, sauf que la plupart des marcheurs étaient français. Et donc voilà comment ça se passe. Et après, bon, assez rapidement, il y a ce qu'on appelle, nous, la grande trahison, c'est SOS. Racisme. Parti socialiste. SOS Racisme. Quand elle n'a pas le micro, elle parle aussi carrément.
Monsieur Bams.
Donc j'explique un peu. SOS Racisme.
Si vous avez envie de réagir à un moment donné, vous pouvez librement le faire.
D'accord.
Donc SOS Racisme, donc c'était une association téléguidée par l'Élysée, donc du temps de François Mitterrand, parce que le fait d'avoir vu, c'est ce qu'on appelait à l'époque la deuxième génération d'immigrés, se prendre en main, ça a été un peu mal vu. Et donc, se disait comment on va faire pour essayer de juguler, d'endiguer ce flot. Et donc, ils ont trouvé une manière simple, c'est-à-dire créer une association avec énormément de moyens financiers. Énormément de moyens financiers, alors que les associations... des jeunes d'origine immigrée venaient à peine d'avoir le droit, c'est-à-dire depuis 81, et au niveau financier, c'était des cacahuètes. Et d'un coup, cette association SOS Racisme s'est retrouvée avec des sommes inimaginables, c'est-à-dire des grands concerts, et avec l'histoire de une main sur laquelle il y a écrit « Touche pas à mon pote », qui semblait quelque chose de très très sympathique à l'époque, et beaucoup de gens y ont cru. Donc là, je vais donner une anecdote personnelle. C'est quand les gens de SOS Racisme sont venus à Marseille, je les ai rencontrés. Et je leur ai dit, c'est pas ce que vous faites, c'est parce que c'est grand public, etc. Et maintenant, ça serait bien qu'on travaille ensemble avec les associations de terrain qui sont là depuis très longtemps, etc. Et il y avait Harlem Désir. Et la réponse, ça a été non. Et à Marseille, il y avait Patrick Meducci, parce que c'est pour dire les choses, qui est l'ancien maire du premier septième. Et donc, ce qui s'est passé avec le SOS Racisme, c'est qu'ils ont eu des moyens énormes et donc ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient au niveau de la jeunesse, leur apportant des choses, leur disant bon, vous avez voulu des concerts, en voilà, etc., etc. Alors que les autres associations étaient sans le sou. Et maintenant, une deuxième anecdote, celle-là encore plus grave à mon sens. À Miramas, il y avait eu un crime raciste et donc nous, l'équipe de Radio Gazelle, certains, on était montés pour voir la famille. Et donc, quand on voit la famille, on leur dit, bon, on va essayer de vous aider dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire, entre autres, on va faire une collecte pour avoir un avocat, etc. Et un quart d'heure après, arrive une belle voiture, Harlem Désir. Donc, il est venu en avion de Paris, donc avion payé par SOS Racisme. Il arrive avec une voiture de fonction, enfin, pas une voiture de location, pardon, une belle voiture de location. Il arrive, il dit à la famille, ne vous inquiétez pas, l'avocat, c'est nous. Et donc, moi, je comprends très bien la famille qui nous a dit, bon, vous comprenez, s'ils disent qu'ils vont sortir le sou tout de suite. On leur a dit, bon, on vous comprend, on vous soutient, de toute façon, quoi que vous fassiez. Et le problème, vous savez que la justice est lente. Et donc, ça s'est passé 2 ans et demi après le procès. Et au procès, il y a eu un avocat commis d'office. Parce qu'il n'y avait plus de caméra, et donc, SOS Racisme avait disparu.
Ouais, dramatique.
Dramatique.
Ouais, c'est vraiment dramatique. Et quel est le constat que l'on peut tirer, ben justement, des effets de cette marche 40 ans après ? Est-ce que vous avez l'impression que la situation a évolué, s'est aggravée ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, Pierrot ?
Oui, dans un bilan, il y a toujours deux parties.
Allez, je t'écoute.
Généralement, dans cette affaire de la marche pour l'égalité, le plus est tout à fait déséquilibré par rapport à ce... Au moins, c'est aux conséquences de cette marche. Moi, je voudrais parler du plus.
Allez, on t'écoute. Un peu de positivité, c'est pas mal.
Je crois que le plus, c'est-à-dire qu'après la marche, et peut-être dans les 5 années qui ont suivi, pour les associations, pour les gens du quartier, surtout pour les jeunes, nous avons senti quand même certains vents de liberté. On pensait que tout était possible, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel, etc. Beaucoup d'associations gérées directement par des jeunes femmes, se sont créées suite à l'autorisation, j'allais presque dire administrative, de créer des associations. Puisqu'avant, lorsque des associations étaient créées, et il fallait parler des problèmes d'immigration, des problèmes de racisme, etc. Il y avait ce qu'on appelait toujours une personne support ou, comment dirais-je, une association reconnue pour pouvoir porter l'association. Depuis Mitterrand, depuis après 81, il y a eu ce vent de liberté où tout était possible. Et même si les subsides étaient assez faibles comparés à SOS Racisme, je parlerai de Julien Drey aussi. Si les subsides étaient faibles par rapport... Mais quand même, j'allais presque dire, nous nous en contentions. Ça nous a permis, il y a eu des centres de formation qui se sont créés, il y a des mouvements de jeunes qui se sont créés, des jeunes ont pu voyager, il y a des artistes qui ont émergé, etc., là-dessus, et dont les associations perdurent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce mouvement, voilà ce que je retiens de positif.
Après, moi, je conseille, si les gens sont intéressés par rapport à cette question, le documentaire de Mustapha Kessous, Origine contrôlée, où il est allé rencontrer ceux qui ont été des marcheurs et qui font un bilan... 30 ans, c'était pour les 30 ans de la marche. C'est aussi intéressant d'avoir ce support documentaire à regarder.
Origine contrôlée qui est au programme, il me semble, de la,
des 40 ans.
Des 40 ans de la marche.
Oui, ce sera au Gyptis, en novembre.
Ah, ouais. on annoncera un petit peu le programme.
Oui. Ouais, le programme, on le fera au fur et à mesure, parce que si on donne un programme, personne ne va retenir. Donc je peux dire juste que le programme général, donc, c'est que le 15 octobre, il y a une réception à la mairie. Donc c'est, pour nous, c'est une reconnaissance importante. Je parle de la mairie centrale. Dans ce moment-là, il y aura deux chansons dont parlera dans quelques instants Daniel Baume. Et ensuite, très important aussi, s'il y aura une exposition, il y aura un vernissage au musée d'histoire, donc un grand musée et exposition qui va rester jusqu'en janvier. Donc c'est vraiment très important, puisque ce qui est prévu aussi, c'est qu'il y ait des centres sociaux, des associations qui fassent venir des jeunes, et ça pour nous c'est vraiment une des choses les plus importantes au-delà de tout ce qu'on fait là.
Oui, Pierrot ?
Je vois que Saïd ne veut pas aborder le côté négatif.
Ah, vas-y.
Mais le constat est amer et tout à fait désabusé. Lorsque je disais que nous avons eu ce vent de liberté, tout était possible, etc., cela est vite retombé sous une chape de plomb. La situation dans les quartiers n'a fait que se dégrader depuis 40 ans. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, tous ces chantiers en rue, etc., qui étaient là pour essayer d'améliorer les conditions de vie des habitants, de l'habitat, etc. Rien n'a été dans ce sens. Les situations économiques se sont dégradées. Nous sommes arrivés à une certaine ghettoisation, une paupérisation dans ces quartiers, etc. Et j'allais presque dire, depuis quelque temps, j'allais pas dire depuis le regain du Front National qui s'est senti investi, n'est-ce pas, d'une certaine mise opinion sur rue. Je veux dire qu'à l'époque de la marche, le Front National était tout à fait marginal, c'était 0,5%. Ouais. Quelque chose comme ça, et mes enfants ont l'habitude de me dire, mais depuis 40 ans vous avez pris le Front National à 0,5%, ben là, ils sont aux portes du pouvoir, qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Ça, c'est ce qui ne s'est pas amélioré. La situation, j'allais presque dire, s'est empirée. Et quant aux violences, le regain depuis 2 ans, depuis 3 ans, des violences policières et des crimes racistes. Malheureusement, nous sommes revenus, nous avons fait du rétropédalage par rapport à la situation des quartiers. C'est pour ça que lorsque nous avons voulu mettre en place les 40 ans de la marche, ce n'était pas, et ce n'est sûrement pas pour fossiliser ce qu'a été la marche de 83, ce n'est pas pour avoir un micro ouvert ou que tout chaque année, Saïd vienne parler de « Ah, vous vous souvenez de l'époque de 83 ?»
Non, mais
etc.
Il célèbre mon anniversaire tous les ans, Saïd.
De 83, c'est de la marche. Donc nous, si la marche de 83 rentre au musée de la ville de Marseille, ce n'est pas pour glacifier ou fossiliser l'action. Et nous sommes là, je crois que quelque part ça apparaît, nous sommes là dans la transmission. Alors non pas que nous soyons ni de donneurs de leçons, transmission vis-à-vis des jeunes, les jeunes fort heureusement ne nous a pas attendus pour militer et rentrer dans l'action. Mais c'est pour dire, nous ne sommes pas donneurs de leçons, nous sommes des passeurs, etc., de ce qui a été fait, de ce qui a pu se faire. Et nous ne sommes pas des magistères. Hein. Les jeunes ont déjà pris les choses en main, fort heureusement.
Merci Pierrot. On va se faire une petite respiration musicale avec un morceau de Daniel Baume. Je gâche votre exclusivité, Saïd. La marche.
Thank you. Nous sommes toujours en direct aux échos du Grand Saint-Barthélemy avec pour thématique les 40 ans de la marche. Si je ne faut pas que je dise de bêtises, je vais essayer d'être précise. Bon, mais ça va me prendre du temps d'être précise parce que je n'arrive pas à me retrouver. Ah oui, un long chemin vers la dignité, excusez-moi. Donc, nos invités sont toujours avec nous, Pierre Lézot, Saïd Boukounouch et Daniel Baume. Et nous avons déjà entendu parler, messieurs Boukounouch et monsieur Lézot. Et là, nous allons venir à monsieur Daniel Baume. Monsieur Baume, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, enfin rapidement, vous présenter, pas forcément rapidement, comme bon vous semble.
Oh, j'aurais, quand j'entends toute cette discussion passionnante qui m'émeut beaucoup, j'aurais beaucoup de choses à dire et qui se bousculent dans ma tête. En tout cas, pour se présenter rapidement, disons que je suis auteur-compositeur et qu'à l'époque de la chanson, à l'époque de la marche, j'étais professeur de musique au collège Albert Camus. Qui se situait en face de la paternelle dans le quartier du Mine. Et j'étais donc tout à fait... Je voudrais revenir sur la chanson qu'on vient d'entendre. Hein. Cette chanson pour une marche, il y a donc 40 ans qu'elle a été écrite, comme la chanson des enfants des quartiers nord, dont j'aimerais aussi raconter un peu l'histoire. Et c'est quand même extraordinaire parce que on a fêté ces 40 ans de la naissance de ces chansons et vous fêtez la naissance, les 40 ans aussi de votre marche et c'est comme ça qu'on se retrouve. Pourquoi on se retrouve au collège Albert Camus, nous étions une équipe d'enseignants, je dirais dynamiques, qui voulaient faire face à ce qu'on appelait à l'époque peut-être l'échec scolaire et qui voulait montrer aux élèves qu'ils sont tous capables de réussir. Et pour cela, nous avons insisté sur les possibilités créatives des enfants. Nous avons poussé à faire de la création dans tous les domaines, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de l'écriture. Et c'est comme ça qu'on a écrit des chansons. La chanson des enfants des quartiers nord qu'on a entendue tout à l'heure, alors c'est là vraiment une histoire extraordinaire. J'arrive à l'instant, là, avant de vous rejoindre, de l'école de la Morlette. Où j'étais avec un groupe de musiciens au Dalva qui va donner avec moi un concert dans cette école de la Morlette et nous étions venus à rencontrer les enfants. Et les enfants, l'année dernière, ont écrit sur la chanson des enfants des quartiers nord, la chanson originale, ils ont écrit leurs propres paroles. Et cette chanson qu'ils ont écrite est maintenant devenue la chanson de l'école. C'est-à-dire que ces enfants-là, ce matin, ils me chantaient à pleine voix « Nous sommes les enfants des quartiers nord et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port ». Chanson que tout le monde connaît, que vous connaissez bien, vous les marcheurs, vous me l'avez dit encore. Mais maintenant, ils chantent aussi « Nous sommes les élèves de la Morlette et à pied ça fait loin jusqu'à la mer ». Écoutez ce qu'ils disent, je ne vais pas tout vous chanter, mais ce qu'ils ont inventé comme parole et qu'ils ont repris ce matin. J'ai rêvé de mon quartier dans 40 ans. Il y aurait des toboggans pour mes enfants. Notre cité serait modernisée. Les transports en commun ne seraient plus cassés. Il n'y aurait plus de voitures, mais des piétons, on ferait du vélo. On pourrait être à fond. Et s'il y a des pauvres dans le quartier, on sera tous ensemble pour les aider. S'il y en a qui ne savent pas lire ou bien écrire, on pourra leur apprendre à rebondir. C'est tout ça qui chante. Je rêve d'un nouveau monde, un monde en paix. On vivrait tous ensemble dans le respect. Vous voyez, avec ces chansons, j'ai envie de nuancer un peu tous les constats terribles que vous faites sur l'actualité, qu'hélas, je ressens aussi très fort. C'est peut-être une note d'espoir. Cette chanson, quand même, elle est pleine d'espoir. La chanson pour une marche. Il faut aussi que je vous en raconte un peu l'histoire. Si
oui, bien
vous,
sûr.
Vous voulez bien.
Bien sûr.
Alors, en fait, nous étions donc dans une dynamique de... Nous étions dans une dynamique de création de chansons avec les... Ça, c'est un projet qui s'est étalé sur 2-3 ans. Nous avons sorti 2 disques, 33 tours vinyles à l'époque, qui ont beaucoup circulé, non seulement à Marseille, mais aussi en France, dans beaucoup de milieux. Et dans cette dynamique, il y a eu plein de chansons. Vous pouvez les entendre hein, sur YouTube. Vous tapez les chansons des enfants des quartiers nord, vous les entendrez. Et dans cette dynamique-là... une jeune fille de quatrième qui s'appelait Raouda, je me souviens très bien, Raouda Idi, oh, j'aimerais la retrouver d'ailleurs pour lui dire encore bravo. Eh bien, cette jeune fille me montre son cahier dans lequel elle me dit, mais avec ma sœur, on a fait une chanson sur la marche qui venait de se passer et dont elles avaient lu des comptes rendus et je crois que sa sœur avait dû participer quelque part à cette marche. Je ne sais pas exactement de quelle façon, en tout cas, elles avaient participé. Et sur son cahier, il était écrit « Enfants de toutes les couleurs, rassemblez vos peines et vos joies, unis pour la première fois, nous serons vainqueurs. » Je me suis mis au piano et avec eux, j'ai trouvé ce thème. « Enfants de toutes les couleurs, rassemblez vos peines et vos joies. » Les enfants sont sortis de la classe en chantant ce refrain. Et ils ont travaillé avec leur professeur de français pour trouver les paroles du refrain. Alors, permettez-moi de vous lire ce qu'ils... Ils parlent de vous, ils parlent des lieux. Ils n'étaient rien qu'une poignée de copains se tenant par la main. Toumi, Christian, c'est de l'homme, hein, ou Rachida, Malika. Pourquoi ils savent tout ça? Parce qu'ils avaient travaillé sur toute la presse pour voir l'histoire de la marche. Et c'est l'espoir qui marchait dans leurs baskets. Ils allaient solidaires comme les rubis d'une grenade. Regardez bien aussi le travail d'écriture qu'ont fait ces enfants avec leurs profs. Comment trouver une façon non banale de dire solidaire. Solidaire comme les rubis d'une grenade. D'où venait-il? De la caillole, la Busserine, où je suis actuellement, des Minguettes, des 4000, un envol d'oiseaux migrateurs vers Paris, et c'est la foule qui leur ouvrait le chemin, relançait le refrain et qui reprenait la Bastille. Et tu me l'as confirmé encore, Saïd, les marcheurs chantaient la chanson des enfants des quartiers nord comme chant de ralliement. N'est-ce pas extraordinaire de voir comment des chansons peuvent traverser le temps? Et comme l'a dit Pierre, là on n'est pas simplement dans la mémorisation mais dans l'actualité. On travaille sur la mémoire, mais on est aussi dans aujourd'hui. Et quand même, si le 15 octobre, des enfants de la Morlette vont chanter la chanson des enfants des quartiers nord et la chanson pour une marche avec vous et en présence du maire et à la mairie de Marseille, c'est quand même un symbole très fort.
Merci, monsieur Baum, excusez-moi. Est-ce que Saïd ou Pierrot, est-ce que vous vouliez rebondir?
On s'en souvient bien, nous, d'abord parce que la paternelle, Bassens, tout ça, on était proches, et donc on connaissait des gens qui étaient dans cette école-là. D'ailleurs, ma sœur était au collège, pas la même année que ces élèves-là. Et c'est sûr que aussi au niveau de Radio Gazelle, c'est une chanson que de temps en temps on sortait. Et c'est vrai que le refrain, de temps en temps, on le sort dans des situations qui n'ont rien à voir, hein, pour dire, bon, on a une sorte d'identité populaire, quoi, parce que pour nous, ça veut dire ça, hein, les quartiers nord, c'est difficile, mais on est quand même fiers de là où on est, quoi.
Tout à fait. Mais ça, c'est, je crois que ce qui est né dans la classe et qui est au départ, nous sommes les enfants des quartiers nord, c'était ces enfants-là, c'est comme enfants de la patrie, quoi. C'est devenu enfants des quartiers nord, comme une sorte d'identité qui a été reprise par tout le monde. Et même Soso Maness l'a fait entonner au stade Vélodrome par le public. Alors c'est dire, hein.
Oui, justement, Soso Maness, on passera à sa version des Enfants des Quartiers Nord, qu'il a intitulé Mistral, mais en fin d'émission.
Il m'avait dit lui-même que s'il avait eu envie de reprendre cette chanson, c'est qu'il l'avait chantée dans son enfance au centre social de Fontvert, et que cette chanson, elle lui est toujours restée, quoi. Et il s'est dit un jour, il faudrait que je la mette dans un disque, vous voyez. Voilà, alors maintenant, je continue à mener toutes sortes d'actions qui, toujours, en fait, en solidarité, hein, et à écrire de nouvelles chansons, et les enfants chantent actuellement un spectacle qui s'appelle « On n'arrête pas les oiseaux ».
Merci.
On a toujours dans le cœur un oiseau migrateur. En fait, le thème de la migration est toujours très fort pour moi. C'est le fil conducteur. Et j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la marche, vous posiez la question du bilan. Et moi, j'avais cette pensée qui me traversait malgré tout, toutes ces difficultés, ces points négatifs. Moi, je me sens porteur de l'espoir que vous aviez donné. Je sais, ça va peut-être vous choquer, mais c'est comme si j'étais fier de ce que vous avez fait. Parce que ces jeunes qui ont manifesté, eh bien, ils ont bien dit qu'ils étaient français et qu'ils font partie de mon pays. Et moi, je me sens complètement en lien avec eux. Vous comprenez que c'est ça. Et ça reste cette fierté. Et quand des enfants le chantent encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils le chantent avec cœur.
Oui, parce que moi, je vois toujours un peu l'aspect négatif des choses. C'est pas parce que c'est bien sûr que nous sommes Français, mais parfois dans le regard extérieur, il n'y a pas cette ce retour. Et j'ai eu travaillé avec l'association Body & Soul, Jean-Pierre Hégan, et c'était dans les années début 2000. On est allé aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg et à Berlin, dans le cadre d'un échange autour des cultures urbaines. Et les jeunes qui pratiquaient la culture urbaine au sein de l'association Body & Soul étaient des Français, donc d'origine, pour la plupart, pour dire tous, étaient d'origine soit maghrébine, soit comorienne. Et quand ils étaient hors hexagone, ils faisaient pour la première fois l'expérience de ce que c'était l'identité française positive. C'est-à-dire que pour les Américains, pour les Russes et pour les Allemands, c'était des Français. Alors qu'ici, on les interroge toujours sur cette notion. Je trouve ça terrible qu'il faut sortir de l'hexagone pour être reconnu comme Français.
Je vous remercie pour vos interventions. Une petite respiration musicale avec un morceau Marche la marche.
On ne peut plus vivre les uns contre les autres. Alors oui, bien sûr, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais pas à pas, rue après rue, ville après ville, on va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé.
365 jours, c'est la merde de mars en mars. Abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche. Là où ça parle en blague, plan beurre, même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans beurre. Depuis 6 mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments de pleurs de ceux qui comptent plus sur la chance mais sur leurs deux pieds. Violence raciale, police et garde de ces jours. C'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ces tours.
De mon vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. C'est marche ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, perdu tant des temps, de l'argent, finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Dépouillant sanglanté sur les sentiers de la liberté. Dans la rue des millions, traités comme des chiffons. Si l'amour est aveugle, l'état doit être cupide.
Lampedusa, je regarde la télé, l'air médusé. Né du mauvais côté de la Méditerranée, l'espoir fait mourir, toute ma famille s'est noyée au fond de la mer, tant de vie broyée. Je rêve d'avoir les papiers, Casanegra, combien tu rêves pour faire l'oracle. Carte de séjour, j'avais 4 piges dans mon anorak. Les anciens font preuve de courage, 83 la marche, une bouée de sauvetage, coincé mes rêves sont partis au large.
Bizarre, en première ligne quand il s'agit de la misère, on appelle ça des balivernes quand les arabes se manifestent.
C'est minable,
atroce combat, on marche le torse bombé. C'est con mais vous ne pouvez rien contre la force du nombre. On fera passer nos idées quitte à fracasser les vôtres. On soutiendra les nôtres juste pour agacer les autres. 1983, la machine est en marche, il suffit d'une carte de séjour pour que les racistes s'emballent.
Ma France je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas. Quand je viens vers toi, parle-moi, ne me repousse pas. Marchons main dans la main, dis-moi ce qui ne va pas. Tes enfants te pardonnent, ne l'oublie pas. Bataille pour nos droits, parce que ça caille sous ton doigt. Nos votes, dis-moi ils servent à quoi. Elles sont comme muettes nos voix. Donc je marche pour que tu me vois, vois. Et te souviennes à jamais. 1983, les mains guettent plus jamais.
De Tolstoï à Gandhi, de Gandhi à Luther, de Malcolm aux mains guettes, les frères s'inspirèrent. Marche des beurs, marche des frères, marche des sœurs. S'ils en ont marre des nôtres, ils en ont marre des leurs. Car ici c'est chez nous, god damn, c'est notre putain de pays. Depuis que je suis petit ma mère paye, 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 paye. De la marche en 83 aux émeutes en 2005, la rage ne fait que dormir, un espoir en demi-teinte. SOS drogue, SOS cool, SOS staff, comment tu veux qu'on reste cool. SOS ça veut dire, ce soir on sort, on en a tellement rien à foutre que ce soir on shoot. Et l'heure est grave frérot, l'heure est grave gros, la politique fait que de la merde, demande à Serge Dassault. Au fait me récupère pas, je suis irrécupérable, depuis l'époque où il me disait d'ici c'est pas récupérable.
Quand commencera notre histoire, commencera notre rivado à la dérive, mon seul radeau fuma sera d'optime. Ma meilleure amie porte le foulard plus joli que ses filles peintures lurées. Laissez les gens vivre leur religion, j'ai envie de partir hurler. C'est con- te juge du regard, pas raciste. De toute façon, y'a pas plus qu'un gars, qu'un raciste. C'est terroriste, yeah. Veulent faire taire l'islam, yeah. Quel est le vrai danger, le terrorisme ou le délocrisme, hein. Les miens se lèvent tôt, j'ai vu mes potos taf. Et je réclame un autodaf, et pour ces chiens de Charlie Hebdo.
Je marche, je pense, je crie, je pleure. J'apprends, j'avance, je vis, je meurs. Comme toi, avec des rêves pleins de cœur. Je suis né ici, si. J'ai grandi ici, si. Je veux construire aussi ma vie et ma famille comme toi. Tu veux avoir aussi le droit,
comme toi, des
des rêves, plein la tête, ton âme est vide, sont nos poches. Pas le même combat, donc on fonce quand l'État nous stoppe. C'est qu'on cultive la différence sur la différence. Mais qui ose me parler en France de l'égalité des chances? On ne raye pas une façon de vivre avec un stylo.
Un stylo
n'aspire pas au respect avec des gyros. Depuis quand la liberté a-t-elle une couleur? On marche la tête comme si on veut noter notre bonheur.
Génération Zidane, plat, blanc, beurre. La France, on a eu peur, c'était qu'un battement de cœur. Un élan, une dynamique aberrant. Tu sois au FN, après ça qu'on compte le plus d'adhérents. J'ai vu la France pencher. La marche des beurs de 83, fils, on a la gorge tranchée. La bête n'est pas morte, elle ne sommeille même plus. Et au fond des regards, on ne voit plus que des je t'aime plus.
On m'a dit aimer la France ou quitter là. Pour vous représenter, on a mis des ramayades et des padelas. Pourquoi vouloir une bibliothèque dans vos favelas? Tenez un terrain de foot, vous deviendrez tous des Benzema. Je sais que c'est mort, là le schéma. Ils veulent me faire croire que ma couleur de peau c'est de l'eczéma. Puis ils s'étonnent que les jeunes ont la rage. Ce soir mon rap n'est pas un cul, jacques, il est prêt pour la marche.
Les peurs, je crache. Balafrolésique, marche des beurs, révolution paraplégique. La haine dans les cœurs, les plaies cicatrisent mal logique. Les armes font les cœurs en couilles, ça part comme en Égypte. Qui gagne à la fin, qui ça profite, j'hésite. Entre les coups et les cris, les pleurs, j'évite. J'écris cette génération, fier et sacrifié. Frère à qui faire confiance, ma zik est scarifié.
On a marché sur la ville quand le pays semblait sourd. Résultat amer, c'est la vie qui a marché sur nous. On nous oppose terroir et guinguette, comme s'il y avait que des terroristes qui ont mal. Du fond des minguettes, levant le drapeau, non pas pour le défier, ils s'en sont méfiés, n'ont retenu que les caissiers. Nos combats assimilés à de graves délits, quand des philosophes de merde écrits nous vendent des livres, ou des ouvriers piègent en boîte avec du gaz. Si on fait la même, je te dis pas, c'est le raid qui nous envoie. Des gens peuvent saccager les biens publics, nous pour s'en prendre sang, vive la République, c'est dingue. Ils nous concèdent rien de noble, des émissions d'actu pourris de la haine font le socle. Quel nom prédestiné, TNT, toutes nos illusions d'unité, dynamité.
Moi aussi je suis un marcheur. La France est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange.
Nous sommes toujours en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy avec Pierre Lézot, Saïd Boukounouch, Daniel Baum, Karim Aberich et vient de nous rejoindre Issa Manessour, le frère de Soso Manès. Je ne sais pas s'il prendra la parole, mais il était avec nous autour de cette table. Et Jean-Marc s'est exilé, c'est pour ça que je n'ai pas donné son nom, même si je viens de le faire. Donc, pour cette dernière partie d'émission, nous allons aborder avec vous la programmation de la marche et ce que vous souhaitez nous annoncer encore.
Oui, juste avant la programmation de la marche, peut-être faire un peu un lien avec l'actualité. Une des raisons pour laquelle la marche s'est faite, je l'ai dit au début, c'était la question des violences policières et les crimes racistes. Or, cette période qu'on vit, c'est une période noire, puisque... depuis la question Naël, de Naël, donc le jeune Naël qui a été tué à Nanterre par un policier, ça rappelait des tristes souvenirs, c'est-à-dire chaque fois que ce genre d'événement se passe, d'abord la presse dit « Ah, de toute façon, j'étais un voyou ». Sauf que le changement entre 83 et maintenant, c'est que maintenant, il y a des caméras partout. Quelquefois on peut s'en plaindre, mais il y a des fois où ça sert à quelque chose, ou bien des gens qui filment. Et donc là, quand le procureur de la République a vu les images, pour une fois, le policier a été mis en détention préventive. C'est rarissime que ça arrive pour un policier, et même si globalement on ne peut pas être pour la prévention préventive, mais là c'était la raison est claire. Pourquoi il est en préventive? Parce que l'idée, c'est d'empêcher le policier qui avait déjà menti au début de s'arranger entre eux pour essayer de créer une version officielle. Et donc, le policier est toujours en prison. Et donc, après ça, il y a eu ce que les télévisions appelaient les émeutes, ce qu'on appelle plus souvent, nous, les révoltes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Naël a fait que partout en France, des gens se sont dit, ça aurait pu être moi, mon frère, ma sœur, quelqu'un de ma famille. Et donc, il y a eu ces révoltes qui ont fait, qui ont eu un écho énorme au niveau international, tellement que les gens se demandaient comment c'était possible. Et bien, évidemment, à chaque fois, dans ce genre de situation, les gens disent, mais il faudrait qu'ils s'organisent, etc. Alors que, bon, c'était pas question d'organisation, il était question de réagir par rapport à un événement qui était un événement fort. Et ça a fait des remous très importants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais souvent, on disait en France, il y a plein de choses qui se passent partout dans les banlieues parisiennes. Mais à Marseille, c'est calme, il n'y a pas de problème. Et il y avait même des gens qui faisaient des théories sur parce qu'on a la mer, tout ça, parce qu'il y a le soleil. Et donc, ces révoltes se sont répandues partout, et y compris à Marseille. Et à Marseille, c'est le lieu où il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts au niveau des gens. Certains qui étaient dans le mouvement pour prendre des produits, etc. Et des personnes qui n'avaient absolument rien fait, qui passaient par là. Mais c'était donc la question du faciès qui était en jeu, qui a fait que les policiers se sont acharnés sur beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de policiers soit mis en examen, soit devant l'instance qu'on appelle GPN, qui est censée contrôler la police. Mais bon, tout le monde sait que la police qui contrôle la police, c'est un peu compliqué. Donc je voulais faire ce lien entre avant et maintenant en termes de bilan. C'est vrai que la situation actuelle est une situation aussi qui est très très grave. Je veux dire que même si certaines choses ont pu évoluer dans la société, bon, au niveau social, au niveau des jeunes, des gens qui ont pu faire des études, etc., etc., ça c'est indéniable. Au niveau culturel, il y a des grands artistes, etc., ça c'est indéniable. Mais dans le fond, il y a quand même plus ou moins, c'est les personnes dont on parle, nous, font partie des milieux populaires. Bon, on ne peut pas dire que la situation soit très excellente aujourd'hui, comme elle était difficile aussi dans les années 80.
Oui, je voudrais simplement rajouter, pour ne pas faire croire que nous faisons un raccourci entre 83 et 2023. C'est-à-dire que périodiquement, il y a eu quand même des révoltes dans des banlieues. J'allais presque dire, il n'y a pas eu une sorte de no man's land entre 83 et 2023. Hein. Là, fallait le préciser.
Merci. Tu voulais qu'on parle des programmes ?
Non, c'est juste que j'allais réagir, effectivement, quand tu disais que quand les banlieues marseillaises se sont réveillées, ça a été en termes de destruction, j'ai envie de te dire, ou de révolte, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut caractériser ça, assez violent, puisqu'il y a ici un magasin Aldi, me semble, qui a été effacé de la carte, carrément. Donc,
c'est pas tellement ce que nous voyons, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens aujourd'hui détruisent, y compris des structures qui leur sont qu'ils utilisent, qui sont nécessaires. Ça peut être une école, ça peut être un abribus. Tu parles d'Aldi, on sait que les quartiers populaires, les ménages populaires vont faire leurs courses là-bas. Qu'est-ce qui se passe pour qu'effectivement ils s'attaquent à des biens qui aujourd'hui leur sont je ne dis pas profitable, ce n'est pas le terme, mais
nécessaire.
Voilà, c'est quand même. Je ne sais pas si quelqu'un a cette question, mais qu'est-ce qui fait que dans ces révoltes, ils vont s'attaquer à des biens qui. Parce qu'il y a d'autres biens qui ne leur sont pas accessibles. Là, c'est des biens premiers ou primaires qui leur sont accessibles et auxquels ils s'attaquent. Peut-être notre ami a une réponse là-dessus.
Bonjour à tous, moi, c'est Issa Manessour. En fait, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol qui a amené ces attaques. C'est comme je vais utiliser des termes un peu far west, western. Pour eux, c'est comme si ils attaquaient la diligence. Et c'était un ras-le-bol. C'était leur manière à eux de se faire entendre. C'était la manière des jeunes de dire oh stop maintenant. Maintenant, stop. Faut arrêter de nous tirer dessus parce qu'on fait un délit de fuite. Faut arrêter de nous tirer dessus parce qu'on a commis un délit. Un délit, il est punissable par la loi, certes, mais pas par les armes. Et alors, si vous voulez prendre les armes, les jeunes, c'était leur manière de prendre les armes. C'était le syndrome de la guerre civile, on va dire. C'était le syndrome de la guerre civile. Et c'était un avant-goût de ce qui peut arriver si les pouvoirs publics ne prennent pas en considération et n'écoutent pas les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Parce que c'est ce qui va se passer. Il y aura une guerre civile en France si on continue de la sorte à tirer à tout bout de champ, à donner des armes à des personnes qui n'ont aucune connaissance et aucun sang-froid. En fait, ils n'ont pas suivi un entraînement spécifique à ce type de situation. Donc, première chose à faire, refus d'obtempérer, première, hop, coup de feu. Et là, c'est pas comme ça que ça marche. On peut neutraliser un véhicule sans tirer sur l'individu. Donc on envoie une herse, on crève les roues, on neutralise le véhicule. On envoie un coup de taser sur le conducteur, on neutralise le véhicule. On lui tire sur des membres inférieurs, on neutralise le véhicule. Mais aller tirer à bout portant dans la tête d'un gamin de 19 ans, excusez-moi, pour moi c'est pas concevable. Après je pense que c'est ce qui a amené en fait... par le biais des réseaux sociaux, il y a eu un effet boule de neige et tout le monde a commencé à se gangréner. En fait, il y a eu un effet de gangrène qui s'est rameuté jusqu'à Marseille par le biais des réseaux sociaux. Parce que jusqu'ici, Marseille a toujours été plus ou moins épargné par ses attaques, par ces méga-violences urbaines, parce qu'on peut parler de méga... Ils sont attaqués, on parle de Aldi, mais ils sont attaqués à Volkswagen, où c'est qu'ils ont volé un concessionnaire. Ils ont pillé un concessionnaire Volkswagen, un concessionnaire Yamaha, et voilà, quoi. C'est ce qui a amené à ce désordre sur la voie publique.
Oh, mais là, on est au-delà du pillage, quoi, parce que la boutique, moi, j'étais choqué, entre guillemets, en passant, le truc n'existe plus, le toit est... au sol.
Oui, donc, oui, mais je crois que on est dans le feu de l'événement. Ces choses-là vont s'analyser peut-être dans 2, 3, 4 ans, parce que qui c'était ces gens qui ont fait ça, qu'est-ce qu'on en sait? Pour le moment, on n'en sait rien. Donc,
des ados en plus, des petits jeunes, vraiment.
Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut se garder de vouloir faire une analyse à chaud. C'est des choses sur lesquelles je pense que des sociologues, entre autres, vont travailler dans les années qui viennent pour essayer de comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a compris que les gens se sont dit Naël, ça aurait pu être moi ou quelqu'un que je connais.
Exactement. Donc,
mais pour le reste, pour le détail, bon, je pense que c'est un peu illusoire d'en parler tout de suite. Quoi.
Alors, si on revenait au programme de la marche, donc déjà, 15 octobre, on reprend les mêmes dates de celles de 83. 15 octobre, 3 décembre.
D'abord, je vous rassure, on ne va pas marcher parce que, vu notre âge avancé, donc il n'y aura pas de marche. Donc, le 15 octobre, donc, il y a une réception à la mairie. Le matin, l'après-midi, il y a le vernissage de l'exposition sur ce qui s'est passé. Et donc, je précise que l'exposition, ce n'est pas sur la marche seulement. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après, jusqu'à maintenant. Je veux dire que on parle même de l'actualité. Et ensuite, il y aura plein d'événements. Évidemment, je ne vais pas vous demander de les retenir par cœur, parce que moi-même, qui suis un de ceux qui les ont préparés, je ne les connais pas par cœur. Donc, il y a donc des conférences. Je vais donner un peu les thèmes. La première conférence, c'est Adil Jazouli, qui va faire le jour même au musée d'histoire. Une conférence justement sur le sujet dont on parlait, c'est-à-dire la question des banlieues. Bon, on sait qu'à Marseille, c'est pas vraiment des banlieues, mais donc c'est au niveau national, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans au niveau des banlieues, au niveau de l'habitat, etc., etc. Ensuite, il y a une autre conférence philosophique sur la question de l'égalité. Donc on aura deux enseignants de philosophie qui vont parler avec l'auditoire sur la question de l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Parce que c'est un mot qui a l'air simple, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi le triptyque liberté, égalité, fraternité. Ensuite, il y a quelque chose qui, au niveau de ce qu'on a vu depuis des années et des années, la question des migrants, enfin, les mots changent tout le temps, migrants, sans papier, etc., etc. Donc, 7 novembre, il y aura un retour sur la marche des migrants qui a eu lieu en 2020. Et enfin, je crois que c'est le 16 octobre, il y aura le retour sur un film qui s'appelle Les Marcheurs, chronique des années beurre. Donc, nous, en tant que Marseillais, on n'aime pas ce mot, mais bon, beurre, donc c'est arabe à l'envers. Et c'est donc un documentaire qui avait été réalisé à l'époque par Sami Achala. Et donc, c'est une des conférences qu'on va voir à ce moment-là. Donc, au niveau du théâtre, il y aura deux événements. Un événement avec le Mohamed Kaki sur la question du 17 octobre 61, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Paris, les massacres d'Algériens, enfin, tous ceux qui ressemblaient à des Algériens. Par entre autres la police française sous le commandement du préfet Papon. Ensuite, il y a la deuxième pièce de théâtre de Kamel Boudjelal qui est connu dans ce secteur-là, puisqu'il il habitait à la Busserine dans son enfance. Et il y a une pièce de théâtre sur les chibanis, c'est-à-dire les anciens. Et le spectacle sera suivi d'un moment de musique arabo-andalouse. Après, il y a donc des films documentaires à l'Alhambra. Il y a la marche, donc le film avec Jamel Debbouze, donc un film grand public, mais celui-là on l'a prévu pour des lycéens. Donc à l'Alhambra, et il y aura donc une rencontre avec les lycéens pour parler un peu de ça, donc ça nous semble intéressant, même si bon, on peut penser ce qu'on veut du film, c'est vrai que pour le grand public c'était quand même intéressant. Et le 20 octobre, il y a un film qui va passer en avant-première, un film de télévision de France 5. Il va passer en avant-première justement qui parle des 30 ans des 40 ans de la marche, et donc c'est je crois qu'il va sortir en novembre à la télévision, mais il va passer en avant-première avec la réalisatrice à Marseille. Je ne sais pas si j'ai tout retenu. Après, il y a un spectacle qu'on appelle Les Héritières. Les Héritières, c'est Shihari Miti, tu connais?
Je connaissais le film Les Héritières, mais c'est, là...
Les Medahat sont des groupes de femmes qui chantaient des chansons quelquefois un peu virulentes, très, très intéressantes. Et c'est vrai que c'est... Par rapport à l'image qu'on a en général en disant, bon, les femmes ne chantent pas, etc. Là, c'est un groupe où il y a que des femmes. Donc c'est Shihari Limiti, donc l'ancienne, elle est plus chez Benny que moi parce qu'elle est morte. Et donc, c'est celle-là, ce qu'on appelle les héritières, parce qu'elles vont reprendre un petit peu les chansons de cette époque-là. D'accord. Bon, je ne vais pas dire tout le programme, non. Mais Pierre va dire un mot. Ensuite, on vous donnera au fur et à mesure les dates.
Oui, très rapidement, vous n'avez certainement pas tout retenu, même si l'émission sera multi-rediffusée, vous pourrez prendre des notes, mais dans tous vos réseaux sociaux favoris, le programme sera accessible. Je voudrais revenir sur l'inauguration de ce programme le 15 octobre à la mairie. Il faut dire que le 15 octobre, nous sommes reçus à la mairie en présence du maire de Marseille. C'est-à-dire que cette commémoration a été validée en conseil municipal. C'est-à-dire que lors du conseil municipal, c'est Benoît Payan, maire de Marseille, lui-même, qui longuement a présenté le pourquoi de cette commémoration et quel est l'intérêt pour la ville de Marseille de s'associer à cette démarche. Donc c'est pour nous un moment très fort, et avec l'entrée au musée. La deuxième chose, nous espérons ce qui pourrait parfaire la visibilité de cette marche de 83, et pour qu'on ne puisse pas y revenir tous les 10 ans, nous espérons, je pense que cela se fera, qu'il y ait une rue à Marseille qui s'appelle rue Marche 83. Donc là, c'est autre chose que d'être au musée. Nous sommes vraiment de plein pied dans l'histoire de la ville de Marseille. Et enfin, nous faisons partie d'une coordination nationale, c'est-à-dire que du 15, et puis ça se poursuivra. Nous n'avons pas parlé des actions en direction des écoles, des actions en direction des centres sociaux, etc. Mais cette année commémorative doit avoir sa finalité à Paris même, le 3 décembre. Et nous faisons partie de cette coordination nationale. Là aussi, vous allez suivre ça sur les réseaux sociaux. Mais pas mal de villes, Lyon, Île-de-France, Saint-Étienne, etc., je ne peux pas les citer tous, eux-mêmes organisent et ont une programmation spécifique sur leur lieu d'intervention. Donc je veux dire que c'est une commémoration qui a, comme l'a été la marche, qui a vocation à avoir un retentissement tout à fait national.
Je te remercie Pierrot, et comme tu le disais, on pourra retrouver le programme de la marche et d'autres informations sur le www.legalité-en-mouvement83-2023.com.
Pour une fois, Pierre a oublié quelque chose. Ah. Pour justement, parce que nous on commence un peu à vieillir, même rapidement, on a une collaboration avec la Ligue de l'Enseignement, qui est une fédération d'éducation populaire qui a plein de centres sociaux et autres, pour que le travail avec l'exposition continue à être présenté par des animateurs que nous allons former. Donc, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, petit à petit, on lâche et on laisse faire les générations suivantes. Dernière chose, donc nous, on a fait énormément de choses, mais il y a d'autres associations qui font des choses, y compris à Marseille, sur le même thème. Ils n'ont pas fait avec nous, c'est pas un problème du tout. Donc il faut, plus il y a de gens qui font, et mieux ça vaut.
Merci Saïd. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission, qui est les communiqués de presse, après un morceau intitulé « Adieu la France » du groupe Origine Contrôlée, qui est en fait ce Zebda.
في الحين قولي ما جيني دمن لعب قشطار ما حاولت سبيلي تعلم دوخن زاد الهام الكيسن كان عربي حار بس جزائري اجو لا فرانس بونجور الجيري كان اشتكي
de retour dans cette brève pause musicale, et nous sommes dans cette émission que vous connaissez bien, les échos du Grand Saint-Barthélemy.
Donc, pour la partie des communiqués de presse, un message du groupe de veille. Les problèmes demeurent récurrents et la situation du maïs s'enlise, voire se détériore. Le nouveau préfet, délégué à l'égalité des chances, M. Michael Sibillo, sera fortement sollicité, notamment pour les problématiques d'ordures ménagères et d'entretien du quartier. Mercredi 25 octobre, au village Santé, situé au parc François Billoux, de 13h à 17h, aura lieu un forum autour du bien-être, de la santé et du sport, animé par notre association bien-aimée, l'association 7 Santé Environnement pour tous. En octobre 2023, l'association Le Pied Nu aura 40 ans et à cette occasion, l'équipe célébrera cet anniversaire à travers une rétrospective impliquant un partenariat essentiel et de tous les temps à la Cité de la Musique et dans d'autres lieux tels que le théâtre de l'œuvre et le cinéma des variétés. Trois petits points de suspension. Aussi, d'ailleurs, le 6 octobre aura lieu la projection d'un court-métrage. Le 7 octobre, des musiques du monde à la Cité de la Musique. Et le 14 octobre, au Théâtre de l'Œuvre. Pour des infos complémentaires, vous pouvez contacter le Théâtre du Pied Nu au 04 91 91 01 29. Et un petit message au sujet de l'association Approche Culture et Territoire qui rentre dans son cycle de mobilisation qui aura lieu du 30 septembre au 8 décembre 2023. Et le thème de ces ateliers est autour du corps et de la colonialité, ce que le racisme fait au corps. Il y aura donc des conférences, des ateliers d'art-thérapie, des rencontres professionnelles, la projection de films. Et après avoir consacré plusieurs cycles au racisme structurel et au trauma colonial, le Centre de ressources Approche Culture et Territoire, s'intéresse à cette année à la question du corps en contexte colonial et postcolonial. Et nous finissons cette émission avec nos remerciements habituels à Sidi, à Karima, à nos invités encore présents avec nous, mais également à ceux qui nous soutiennent, et je parle de soutien financier. Donc merci à la politique de la ville, je précise, l'État et la métropole. Et on finit cette émission sur une réadaptation entre guillemets, en tout cas l'empreinte d'un des morceaux de Monsieur Baume, avec un morceau de Sosomanes intitulé Mistral.
La mort n'attend pas que tu sois un homme bien. Sois un homme bien et attends la mort. J'ai gaspillé le temps au creux de ses mains. Mais avec le destin, personne joue la montre. J'ai vu des seringues dans le bac à sable, là où s'amusent tous les enfants. Le toxico, je l'ai pris à coups de serin. Puis j'ai compris que c'était à cause de moi. Oui, à cause de moi, parce que je vends la mort. Le matin, le soir, à des heures différentes. Aucun scrupule dans mes méfaits. J'en ai rien à foutre tant que le bif y rentre. Le jobber fume un tarte patate. Le civil nous insulte de macaque. Ça passe du QHS au HSE. Je déplie chez ce qu'échoua sur l'asphalte. Premier album, c'est rescapé. Je pose mes coronets sur la table. Quand je rappe auto, tu sens la vérité et l'authenticité de mes fables. Je vais pas pleurer sur notre précarité, mais montrer au monde qu'on est capable. Décider, inciter l'unité, comme mes trois grands frères du intouchable. Je reviens vous braquer, allez haut les mains. Je suis comme un croc sur la canne bière. Je vais rapper la rue et tous ses problèmes. De la bonne mère à la tour Eiffel. Des labos de la jungle amazonienne. Au pied un salut de nos HLM. Y'a des traces de pure sur les billets crème.
Et dans la puce, des crises pour le week-end.
C'est sur un SNL, tu es endetté. J'ai dit les voler, j'étais rapta. Avec Chétan, on a trinqué. Maintenant je décuve mon vécu et pleure quand ça va pas. J'ai trop vu de larmes le soir à l'hôpital. Trop vu de blas sur les pierres tombales. Cette année le vent va tourner pour mes frères. C'est pour ça que cet album s'appelle Mistral.
Et je fais le tour, je repense à tout ce parti là-haut. Je vous le dis bientôt, c'est moi qui fais la météo. Fuck les rivaux, tu me penses je rigole, mais crois-moi, je suis tellement triste. La vie d'artiste, je veux pas du succès. Si c'est pour finir comme toi, égoïste.